avec Jessica Barker et Michel Charrette.
55. Bienvenue dans Copilote pour l'été avec Jessica Barker et Michel Charrette. Mardi, le 20 juin. Il fait beau. On est content d'être là jusqu'à 18h pour vous accompagner. Cette semaine, on est chanceux. On est avec notre passagère Cynthia ou Maheu. Elle va arriver un petit peu après.
Ben c'est correct, ça. Oh, j'adore le klaxon!
Ah, bravo!
Ça, on dirait une poule qu'on écrase, là, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est une poule qu'on écrase.
Et c'est un klaxon.
Exactement. Grosse émission pour vous aujourd'hui, vous voulez pas manquer ça. Aujourd'hui, on est mardi et vous savez ce que ça veut dire, le mardi. Le beau bœuf, Marcel Lebeuf, va être avec nous autres pour nous raconter d'autres histoires paranormales qu'il a vécues. À chaque fois que le beau bœuf vient jaser ici, la messagerie texte explose.
Et là, la question, est-ce qu'on aura le droit aux coordonnées de Madame Lise?
Juste Marcel qui va nous dire tantôt.
Là.
Évidemment, comme tu l'as dit tantôt, Cynthia va venir nous parler de l'espéranto de Kessé. Ensuite, on parle de mensonges au travail. Ça a l'air qu'on se fait mentir depuis des années au McDonald's. On vous explique ça. Et aussi, on va vous parler d'un nouveau concept de restaurant, bien, bien intéressant.
On va parler de Marketplace. Passion Marketplace!
Passion Marketplace! Il y a toutes sortes d'affaires là-dessus. Mais écoute, il n'y a pas juste les artistes d'ici qui vendent des choses sur Marketplace. Il y a les vedettes américaines aussi. Mmh. Beyoncé, The Queen et Jay-Z déménagent souvent. Donc, ils ont souvent des choses à vendre puis ils veulent s'en débarrasser, effectivement. La dernière trouvaille que ces gens-là ont mis sur Marketplace, ça vaut 2 400 $.
On dirait que pour eux autres, c'est quasiment un deal.
Ben, c'est un deal. C'est du screening pour eux autres, comme on dit dans notre jargon. C'est quoi, vous pensez? Qu'est-ce que tu penses que c'est?
Ben, écoute.
À 2 400 $?
Écoute, c'est sûr, c'est pas dans les vêtements parce que tout devrait être plus cher.
Leur bidet.
Hein?
Ils ont mis à vendre leur bidet.
Ben, voyons.
Je te jure, écoute, l'encanteur basé en Californie, Eric's Architectural Salvage LA, a pu mettre la main sur un lot d'articles ayant appartenu au couple multimilliardaire et parmi les lumières extérieures, les cadres de portes en métal, toutes sortes d'affaires. Il y avait un splendide bidet ayant servi à nettoyer le fofone.
On dirait que je suis mal à l'aise.
Ben, moi aussi, je veux dire, c'est quand même pas un objet qu'on passe de d'une main à l'autre. Hein?
Toi, en plus, qui est tellement toqué, là, t'arrives dans une nouvelle maison, tu changes de bol de toilette,
ben,
t'achèterais pas le bidet
c'est le minimum.
De quelqu'un d'autre.
Mettons, il y a du monde qui vient de chez nous, je les connais pas trop, change les bols.
Ben, c'est ça!
Les sièges, plutôt. Je vous rappelle le prix, 2 400 $ US, mais c'est pas de mettre quel bidet. Oh que non! Alors, dans l'annonce, ça dit, il est doté d'un incroyable matériel, Shirley Wagner.
Wow!
Alors, on s'en fout un peu, mais bon, c'est écrit. Shirley Wagner... était connue pour fabriquer de belles pièces glamour qui étaient souvent plaquées en or. Alors, je sais pas si le matériel est plaqué or, car nous ne sommes pas en mesure de le tester. Et... J'espère bien. Mais il est fort possible que ce soit le cas. Fait que peut-être que... Tu sais, mettons une annonce précise. On sait pas trop s'il est en or ou pas. Anyway, bref, le bidet provient de la résidence de 55 millions de dollars que Beyoncé et Jay-Z ont occupé de 2015 à 2016, avant de déménager ailleurs. Alors, les nouveaux propriétaires ont choisi de tout refaire à neuf. Fait qu'évidemment, le bidet s'est retrouvé sur Marketplace à vendre pour 2 400 $.
C'est quand même absurde.
C'est fascinant, hein?
Je sais pas s'ils étaient contents quand ils ont vu ça.
Ben, ils étaient contents en même temps. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils s'en vont, ils
n'en
ont plus rien
non,
à cirer.
Non, mais ils ont dû dire, oh, come on, t'es-tu en train de vendre mon bidet?
Mon bidet plaqué or.
Puis là, c'est rendu que ça spline partout.
Exactement.
Que Beyoncé vend son bidet. Alors là, cheap.
Mettons là que toi, t'as un rêve d'acheter quelque chose qui a appartenu à une célébrité, ça serait quoi, mettons?
Ben, spontanément, moi, c'est sûr que, tu sais, je me dis, je pense tout de suite à des œuvres d'art, tu sais, d'artistes extraordinaires, tu sais, j'imagine avoir un Dali chez nous,
ben, c'est ça,
avoir un Basquiat, avoir tu sais, c'est tout des
un Tex Lecor.
Non, ça un petit peu moins, mais tu sais,
un Muriel Milhaud.
Parce que sinon, avoir des choses qui ont appartenu à une star, j'avoue que je m'en foutrais
ben,
un
moi
peu.
Aussi un peu.
À moins si j'ai le coup de cœur de ma vie, genre c'est le meuble que je voudrais donc avoir.
Tout à fait.
Là,
mais moi, genre, mettons la tuque que Jack Nicholson portait dans Vol au-dessus d'un nid de coucou dans le personnage de McMurphy.
Ça, tu capoterais.
Je pense que je paierais assez cher pour avoir ça chez nous, encadré puis tout.
Puis t'aurais pas de doute, genre, si tu le vrai ou si tu.
Ben, il y a toujours un doute qui subsiste. Comme je te disais, j'ai une affiche de Jack Nicholson chez nous, autographiée par lui, du Vol au-dessus d'un coucou. C'est authentifié, mais en même temps, peut-être je me suis fait fourrer, puis je le sais pas, mais dans mon cœur d'enfant, je me suis pas fait fourrer, puis c'est vraiment Jack qui l'a signé.
Je te confirme, il m'a écrit, puis il m'a dit.
Ah,
qu'il avait
signé. Merci beaucoup. Ça
nous a donné envie de faire la suite des pires trouvailles de Marketplace, parce que ça rend toujours heureux.
Ça, c'est formidable.
Alors, une copie du livre « L'investisseur intelligent », un livre qui se vendait 25 $ en vente pour 5 $ Clairement, le vendeur n'a pas appris beaucoup de son livre.
C'est sûr.
Il y a 2 semaines, on avait trouvé un homme qui vendait des burgers Là, c'est une femme qui vend des sandwichs au poulet à 8 $. C'est même pas pour rire, là. Ça vient que du poulet, du bacon, des con... Arc, tu l'as acheté?
Non! Tu l'as acheté!
Arrête!
Je suis allé dans la Côte des Neiges l'acheter.
Non!
Arc! JF, notre scripteur, il est vraiment allé l'acheter.
C'est incroyable!
Vous avez une photo dans le pacing, voulez-vous qu'on compare?
Oh mon Dieu, c'est ça!
Oh mon Dieu, Seigneur! Okay. Écoute, dépensez pas 8$ personne, s'il vous plaît, pour ça. Enlève-les, ça pue, man. Va-t'en. Va-t'en, c'est dégueulasse.
JF, tu es fabuleux. Merci pour cette idée. J'espère que tu arriveras avec rien d'autre avec la suite.
J'espère que c'est Rouge qui a payé pour ça, pas toi.
Il mange. Bon.
Okay. Ah, tu y as goûté?
Oui, il mange.
Puis?
Écoute, on va voir s'il survit.
Il dit c'est bon, en
fait.
On fait
le suivi jusqu'à 18h. Mm. On va voir si l'intoxication s'installe. Oh. Bon, là, on s'en va dans des zones un petit peu bizarres. Petite culotte usagée, sale et puante, à vendre pour 100 $.
Ça, c'est terrible.
Écoute, j'imagine que si c'est à vendre, c'est qu'il y a un marché pour ça. Dans le même genre d'idée, jackstrap usagé. Probablement aussi usé, sale et puant que les bobettes de la fille, mais juste 5$.
5$. Hey, l'autre, il est tordant, là. Ça.
Martin vend un putter de golf chromé or à 250$.
Écoutez la suite.
Le seul petit défaut, le putter est en forme de pénis. Ça a l'air qu'il y a juste lui qui trouvait ça drôle, les jokes sexuels de bâton, de joue pis de balle.
T'es sur le terrain et sur le verre, tu potes avec un pénis.
Oh, un ami a loué. Il y a un nom, un gars qui se nomme Rundle King. Il propose ses services d'ami à louer. Sur son annonce, on peut lire « Je suis disponible pour prendre une marche, aller pique-niquer ou n'importe quelle aventure. J'ai de l'expérience comme coach de vie. Je suis disponible pour des rencontres, des appels ou des textos. » Je trouve ça quand même un peu cute pour
Il y a du monde weird aussi. Il ne sait pas qui va faire appel à ses services. Ça peut être bien trash, comme ça peut être bien le fun.
Et là, on a reçu des messages. Ben voyons donc, Jeff. Je vous explique. Notre scripteur, Jeff, est allé acheter un sandwich à 8 $ qui était en vente sur Marketplace. Et c'est une madame qui l'a fait puis qui vend ça. Puis lui, il la connaît pas.
Il est allé sonner et ramasser le sandwich.
Pour la blague, c'est quand même pas
pire. Et il en a pris une bouchée et il est toujours vivant.
Oui, alors, toujours
c'est
vivant.
Ça, la bonne chose.
À suivre, on va vous faire certains rapports pendant l'émission. Encore mieux, on va aller jaser à Loulou qui a toute une histoire avec Marketplace. Allô, Loulou!
Hey, salut!
Salut, Loulou, ça va?
Ben oui, merci. C'est dégueulasse pour le sandwich. Mais on s'en va pas là.
Mais toi, ton histoire de Marketplace, c'est quoi?
Écoute, mais c'est ça. L'affaire, c'est que j'avais un ancien collègue super intéressant, que j'avais vraiment un crush pas pire dessus, puis on s'est perdu de vue. Lui, il a changé d'emploi, puis ça, on s'est perdu de vue. Puis moi, étant bonne citoyenne, je rénove mon duplex et je mets toutes sortes d'affaires sur Marketplace. Puis un jour, il m'écrit, puis il me dit « Ha, 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 Louise, Loulou, c'est vraiment laid, ça a l'air d'un pita, ton affaire, c'est laid. » Fait que, bref, il avait pas regardé toutes les photos, tu sais. Fait que, bref... On a commencé à jaser tout ça, puis en bout de ligne, ben, il m'a invité à souper chez lui, puis depuis, je suis encore là.
Vous êtes avec ensemble?
Oui.
Vous êtes des amoureux grâce à Marketplace?
Effectivement.
Oh my God.
Il
n'y
a pas juste des mauvais côtés.
C'est extraordinaire, bravo.
Pas juste des jackstraps à 5$.
Non. Finalement, y a-tu acheté quelque chose que tu vendais?
Ah, ben non.
Non, il a juste acheté ton cœur.
Oui,
c'est vrai. Mais merci, Loulou, de raconter ta belle histoire.
Merci, bravo.
Mais à bientôt. J'ai des tendances alimentaires à te présenter, Michel.
Ah ouais,
j'ai hâte
donc,
de savoir si tu vas aimer ça. Okay. Alors, je commence avec les quick lunch.
Quick lunch,
alors, c'est un concept que propose le restaurant de Poète à Bruxelles. C'est un repas de service que tu vas avoir reçu, mangé et payé en maximum 1 heure.
Oh,
mais là,
ça,
on ne parle pas d'un repas de McDo. Là. Le resto a un look élégant, feutré, des plafonds hauts, un style coloré. Tu sais, comme un grand restaurant où on va souper, puis c'est long, puis ça coûte cher, puis que nos enfants sont à bout. C'est un plat gastronomique et un dessert, puis le prix est très appréciable, 30$ par personne. Fait que c'est quand même pas pire.
Mon Dieu, c'est cool, ça.
Fait que la suggestion à la carte du lunch, elle varie chaque semaine en fonction des saisons et des arrivages des produits. Fait que la promesse initiale est respectée. En 1 heure, c'est réglé. Une pause de midi raffinée, agréable et rapide. Moi, je suis très, très, très volontaire pour ce genre de choses.
Moi, j'achète ça, c'est sûr, à 100%. Écoute, tu sais, sur l'heure du lunch, des fois, on est pressé.
Exactement.
Tout ça. Puis en plus, on a tendance, des fois, à manger pas toujours santé parce qu'on est pressé. Là, si en plus, tu peux te reposer 1 heure, relaxer, bien manger, pas trop cher, tout le monde est gagnant là. là-dedans. Là.
Puis même dans le contexte avec des enfants aussi, parce que le problème, quand c'est on vrai. Va dans les restaurants, moi, je me dis, ils ont une patience, là. Je suis sur leur cas, j'arrive avec des activités, des cartes, des trucs à dessiner, mais des fois, c'est long,
non,
là.
Non,
puis
non,
les
non,
enfants, ils trouvent ça pénible. Fait que je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Toi, le midi, tu prends le temps de dîner tranquillement, ça fait partie de tes choses au quotidien.
Je te perds dans le tunnel. Oh, Jess, es-tu là? Allô? Jess, es-tu avec... Ah, on a perdu Jess! Ben, pas pantoute. Je suis toujours sur le gun. Ça, c'est une très mauvaise habitude. Des fois, je mange même pas. C'est terrible.
Fait que tu vas pouvoir aller à Bruxelles.
Ben, je pense qu'on va se partir ça ensemble après notre carrière de radio. On va se partir à un restaurant à Quickland.
Ah, ben, on va se taper ses nerfs. Bon, deuxième nouvelle tendance alimentaire. Juste le nom me fait rêver, le vin piscine.
Ah, moi, ça m'énerve.
Ben non, moi, j'adore que le nom vienne du fait que ce soit un vin qu'on boit dans la piscine ou que ce soit parce que ça vient dans un verre gros comme une piscine.
Oui,
tout me rend heureuse.
Tout toi, hein?
C'est quoi le vin piscine? Alors, c'est né autour des chics piscines des maisons de Provence et sur les plages de la Côte d'Azur. La tendance du vin piscine s'étend maintenant de l'autre côté de l'Atlantique. Le concept est simple. On prend un vin léger, blanc ou rosé, servi sur glace. Mais encore, la tendance est au cocktail. On rajoute des arômes, sirops, herbes, fruits séchés, selon notre inspiration. Et encore mieux, selon notre tenue du moment.
Oh, que c'est qui était...
Parce que c'est encore mieux si on l'agence avec notre maillot de bain pour une photo des plus instagrammables. Et pourquoi vin piscine? Le nom de ce cocktail tient non seulement au fait qu'il est préférable de le consommer au bord de la piscine, mais aussi parce qu'il est servi dans un très grand verre en forme de piscine. J'aime tout de ça. Michel, de 1 à 10, c'est quoi les chances que tu agences ton vin piscine à ton maillot de bain?
Zéro. Oh! Même pas de 1 à 10, moi, c'est zéro. Voyons, donc ça va, j'ai du temps. De toute façon, les filles, vous avez 703 maillots.
Oui.
Nous autres, on en a un.
Oui.
Ça finit là.
Oui.
Il fit avec tout.
Puis il est toujours un peu mouillé.
Ben, c'est parce que oui.
Il n'a juste un.
Ben hey, oui, c'est ça.
C'est quoi ton drink préféré, Michel Charest?
Ah, le rum and coke.
Hey, ça, c'est...
Mais ça fait une couple de mois que j'ai pas bu oui, parce que, bon, je fais une cure puis tout ça parce que ça me tente puis je vais être en forme pour les projets. Mais le rum and coke, que je préfère des mille à genoux pour un rum and coke.
Ah non, je sais, t'as vraiment une passion.
Ah, je vire fou, puis j'en ai des rums. Puis, tu sais, tantôt, Marcel va être là. Marcel aussi, c'est un grand connaisseur de rhum. Il y en a beaucoup aussi. Puis, c'est tellement raffiné, un rhum. En tout cas, bref, excuse-moi, vas-y pour la prochaine question.
Ben non, on va aller au complément. Les pires concepts de resto,
c'était cœur. Death Row Dinners à Londres, un restaurant dont tous les items sur le menu étaient constitués des derniers repas de criminels célèbres.
Ouh.
C'est quand même fascinant. Le café Toilette Magique, une chaîne japonaise de café à thématique salle de bain.
Ah non, ben non.
On a essayé de s'implanter avec la Californie, écoute, c'était dégueulasse. Les clients étaient assis sur des toilettes.
Oh.
Les bols étaient en forme de toilette, évidemment. Tout était en céramique bleue. Puis il y avait des rideaux de douche chez les fenêtres. Peux-tu te dire que ça n'a pas marché?
Je comprends.
Un resto de burger aux États-Unis, beaucoup à Las Vegas. Et les hamburgers sont tellement gros que le nom est le Heart Attack Burger.
Oh.
Et les serveuses sont habillées comme des infirmières parce qu'ils savent que tu vas crever.
Ben non, tu me niaises.
Mais ça fonctionne super bien, je te jure vraiment. Puis là-bas, il y a du monde qui se prenait avec des solutés, puis tout faire à semblant vraiment que tu vas péter au vrai.
Oh là 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 là, on dirait que je suis pas sûre de ça.
C'est très
là.
Américain comme concept, on s'entend. Hein?
Vous écoutez Copilote pour l'été. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55.
Les hits de votre été, tous sur la même fréquence.
Rouge.
Et Cynthia qui est arrivée.
Allô, Cynthia!
Je sors du vortex de la vie.
Je sais que
t'es arrivée, c'est comme un cheveu sur la soupe, là, c'était formidable.
Mais là, on a eu le temps de faire un beau sujet, on a écouté deux frères, puis là, on s'est posé. Hein? Tout est correct.
Écoute, t'es malade.
Avant de te parler, on a un message pour toi, Michel.
Ah oui, c'est quoi?
T'as dit que tu capotais sur le rhum. Isabelle te dit, j'ai fait d'excellents rhum and coke avec lime, sirop d'érable.
Mmh. Oh. Sirop d'érable?
Et beaucoup d'amour.
J'haïs pas ça. Oh. Rhum coca avec lime, c'est un classique. Mais une petite touche de sirop d'érable, je pense que je vais essayer ça, ça sera pas long.
Il va peut-être se remettre à boire,
ouais,
juste pour ça.
Oui, ça se peut bien. Ouais,
merci,
je retourne
Isabelle.
Dans l'enfer de la boisson.
Je trouve ça assez plate.
Il y en a peut-être sans alcool, où j'ai trouvé de la marathon sans alcool, puis il est vraiment bon.
Ça goûte-tu bon? Parce qu'il y a certains des drinks, comment est-ce qu'on dit ça, là, déjà
oui,
préparés. Là.
Mocktail. Ah oui.
Non, mais tu sais, en cacane, ouais, ils sont pas tous bons.
Sucré.
Sont des prêts à boire,
merci,
mon beau JP. Des prêts à boire sans alcool, puis ils sont pas tous joyeux à boire.
Mais il y a des alcools sans alcool, puis ça peut être
ça
vraiment...
Ça fait un job?
Oui.
Moi, je me refais des amaretto sour.
Oui,
j'étais fan de ça.
Oui. Okay.
Puis je bois plus depuis genre 7-8 ans, puis là, je me refais des amaretto sour.
Ça goûte pareil.
C'est malade.
Ouais, mais le feeling d'un peu cocktail, il est pas là, par exemple. C'est ça qui est blatt.
Non, mais j'ai pas besoin, sinon je pars encore plus profond dans les vortex.
Hey, non, on veut pas te parler. Déjà qu'à jeun, t'es sur le bord, on te parle. Faut pas.
D'ailleurs, là, tu veux nous parler d'Espéranto.
Écoute.
Qu'est-ce que c'est ça?
Et là, je pars. On part d'un quiz, les amis.
Oh,
attachez
yeah.
vos tics avec de la broche, je vous amène avec moi.
OK.
Alors, là, on commence avec question à choix. Qu'est-ce que l'Espéranto? Une marque de voiture italienne. B, une langue internationale équitable. Ou C, une danse latine.
L'espéranto.
Je pense que c'est une langue.
Ben, ça doit être. Je sais pas, honnêtement, j'ai...
C'est exactement ça.
C'est une langue?
Une langue. Okay. Une langue créée en 1887 par M. Zamenhof afin d'unir le monde. Une langue qui est non genrée, facile à apprendre et qui n'est pas reliée à une puissance économique ni culturelle.
C'est pour ça qu'on dit équitable, c'est
ça? Équitable, c'est ça. Exactement, puis il n'est pas relié non plus à une forme de colonisation quelconque.
Mais on parle cette langue-là, là.
Oui, de plus en plus, ça a ralenti parce qu'à la Deuxième Guerre mondiale, il y a plusieurs protagonistes qui sont morts dans les camps de concentration.
Ah, OK.
Mais ensuite, il y a eu une remontée.
De cette langue-là.
Exactement.
Ah, bon.
Alors, attention.
Deuxième question.
Ou faux, mesdames et messieurs. Depuis 1923, nous devrions parler tous l'espéranto.
Vrai.
Vrai.
J'allais dire faux, juste pour dire d'autres choses.
Je sais bien, je peux tout me contredire.
Eh bien, c'est vrai. À un moment donné, tous les pays de l'UNESCO étaient prêts à voter l'espéranto comme seconde langue officielle.
De tous les pays.
Toutes les écoles du monde allaient apprendre l'espéranto comme deuxième langue pour faciliter la communication internationale.
Universelle, c'est ça.
Mais le mémo s'est pas rendu.
Ben, la France a choqué, finalement. La France a changé d'idée. Puis a retiré son vote.
C'est eux qui ont mis des bâtons dans les roues.
Oui, parce qu'à cette période-là, le français était à peu près aussi important que l'anglais en ce moment. Fait que c'est ça.
Donald Trump parle l'espéranto.
C'est ça. Alors attention, je vous dis une phrase.
Oui.
Dites-moi ce que je suis en train de vous dire.
OK, on t'écoute.
La malbella bebo danzas rapide.
La belle mambo danse sur les pites.
C'est pas loin!
Mais il y a danse, mais la belle femme.
La malbella bebo danse rapide.
La bonne femme danse à la malbée.
Hey, c'est pas loin. Le bébélette danse vite.
Le bébélette danse vite.
Le bébélette?
C'est une phrase complètement grotesque que j'ai appris dans le Duolingo. Duolingo, il y a des phrases niaiseuses, puis celle-là, mon Dieu, elle
est jamais sortie de phrase.
Oui, exactement.
Mais y a-tu un dictionnaire de l'espéranto? Y a-tu un livre? Y a-tu un alphabet?
Oui, tout ça.
Tout ça existe.
Moi, j'ai un dictionnaire espéranto français qui date de machin tranquille. Il y a la méthode facile pour apprendre l'espéranto. Il y a lernu.net pour apprendre une plateforme internet gratuite.
Toi, tu parles-tu l'espéranto couramment?
Moi, je le commence.
Ah, toi, t'es déjà embarqué là-dedans.
Ben, moi, je suis tombée parce que l'année passée à l'UQAM, il y avait justement le congrès international d'espéranto à Montréal. Puis je me suis pointée en disant allô.
J'adorais la voix n'importe où hier.
Hier, les Autochtones à l'UNESCO. Aujourd'hui, l'espéranto. Demain, c'est quoi? Les bains grecs?
On ne sait pas.
Oh.
J'ai hâte de savoir. Michel, tu as des belles idées de compléments?
Ben écoute, oui, parce que bon, tu nous as parlé de l'espéranto, mais moi, je vais vous parler des expressions ou des mots qu'on utilise, puis vous essayez de me dire d'où ça vient.
Ouais.
Mettons, je vous dis bécosse. Oh. C'est quoi l'origine du mot bécosse?
Moi, je suis une vieille anglaise, fait, je le sais.
Fait que ça vient de back house, qui est une variation du mot anglais outhouse, le mot qui est utilisé pour décrire une toilette sèche. Donc, on est parti de Backhouse, qui est devenu Bécosse. Le bonhomme 7 heures, ça viendrait de Bone Setter. C'est un genre de chiro qui faisait crier ses patients, d'où la naissance d'un personnage terrifiant pour les enfants. C'est quand même capoté. Pissou, tu sais, quand on dit quelqu'un qui est pissou, on a longtemps pensé que ça venait de l'anglais pea soup, une insulte qui était prononcée à l'égard des Canadiens français, mais des usages plus anciens ont été découverts en France. Ça veut simplement dire un enfant qui faisait souvent pipi au lit. Un pissou.
Oh,
et péter le feu. À l'époque des locomotives, au charbon, les gens qui pelletaient le charbon, on les appelait des pelleteux de feu. Donc, ça prenait des gens très en forme pour faire ça. Puis avec le temps, ça serait déformé. C'est devenu, tu pètes le feu tellement que tu es en forme. Puis qu'est-ce que tu t'en vas?
16h36 dans Copilote pour l'été avec Michel Charrette, Jessica Barker et notre passagère cette semaine, Cynthia Oumaheu.
Bonjour à vous.
Il y a quelqu'un qui écrit, vous savez, dans le film
Mignons.
Les Mignons, ils parlent l'espéranto. Ça me fait rire. Allez, on parle d'un sujet, c'est avez-vous déjà menti au travail? C'est sûr que oui, tout le monde a déjà menti au travail, hein, pour dire, je rentre pas matin, j'ai une diarrhée, mais dans le fond, c'est parce que tu vas aller passer une demi-heure au casino ou quelque chose. Écoutez, on vous nommera pas si vous
restez.
On vous nommera, c'est parce que j'ai déjà fait ça. Alors, c'est pas vrai. On vous nommera pas si vous voulez rester anonyme. 6-12-13, racontez-nous vos pires mentir au travail. On vous pose la question, pourquoi? Parce que des employés du McDo ont fait une révélation choc. Vous vous demandez souvent pourquoi la machine à crème glacée du McDo est toujours brisée.
Ouais.
Selon le site Narcity, eux autres, ils ont décidé de poser la question à des employés pour avoir leur juste. Alors, savez-vous quoi? Quand ils nous disent que la machine à crème glacée est brisée, Eh bien, c'est faux.
Ah ben!
Pourquoi? Coup de théâtre. Et alors, il y a un employé qui dit « Dans mon temps, je peux te donner le scoop que quand on était pressé, on mentait et on disait des fois qu'elle était brisée. » Mais je te dirais que la plupart du temps, c'est vrai qu'elle était brisée. Par contre, elle n'était pas nécessairement brisée, mais il fallait la nettoyer souvent. Puis pendant ce temps-là, ben, on pouvait pas l'utiliser. Puis parfois, la machine se vidait et on n'avait tout simplement pas le temps d'aller chercher la pochette de crème pour la remplir. Puis il fallait aussi attendre avant qu'on la remplisse pour que la crème glacée, pour que la crème gèle. Alors, c'est tout à fait normal qu'ils nous disaient « Eh ben non, elle est brisée, la machine. » Mais c'est vrai que la maudite machine est souvent pétée. Tu sais, t'arrives là, mettons, 11h le soir, tes enfants sont couchés, tu sais, bon, on va te chercher un
petit McFlurry.
T'arrives là, la machine est brisée. Ah. Tu veux tuer? Ah. Tu veux tuer? Tu finis au dépanneur dans l'espèce de frigidaire pour acheter des cornets un peu trop gelés, là, tu sais.
Ou un peu trop mou. Ça dépend du congélateur.
Exactement. Avez-vous déjà menti au travail, vous autres?
Moi, je suis vraiment pas une bonne menteuse. Fait que je peux même pas, comme, aller là.
Quand tu dis que c'est vrai que t'aimes ça travailler avec moi, donc c'est vrai.
Oui!
Right.
Tu sais, j'ai beaucoup de défauts, mais celui-là, il fait pas partie de moi. En fait, je suis mauvaise.
Ça apparaît dans ta face, genre. Ah oui, toi, Cynthia?
Ben oui, tout me paraît dans la face.
Fait que tu mens pas, toi, non plus.
C'est ça, je tricote pour faire, ben non, accueillons.
Ça, tu vas falloir que tu en parles de ta passion du tricot.
Oui, j'aimerais ça.
Elle a commencé ça sur District à tricoter.
C'est vrai.
Et elle m'a fait un linge, tu sais, pour nettoyer le comptoir.
Qu'on adore.
Je te jure.
C'est la meilleure guenille.
C'est la meilleure guenille que j'ai jamais eue de ma vie.
Tu peux même mettre ça dans l'eau de Javel, ma fille, ça tient.
C'est écœurant, ça marche au bout. Mais pensez-vous, vous autres, que mentir au travail, ça peut être considéré comme de la diplomatie?
Ah.
Tu sais, mettons, là, tu as une petite menterie blanche ou quelque chose de même, là, tu sais, parce qu'il faut regarder les relations cordiales au travail. Tu sais, mettons, Jess, je te dis, ah, c'est beau ce que tu portes aujourd'hui. C'est pas nécessairement vrai, mais je te le dis parce qu'on travaille ensemble tout l'été.
Non, je comprends.
Surtout qu'il est neuf.
Il est flambant neuf,
oui.
Ton chandail, mais il est
très bien. Je l'adore.
Non, mais j'adore ça, coquille d'œuf, moi, comme
qui
ça.
Qui a été choisi.
Dans jaune d'œuf, pas trop cuit, là, c'est super.
Bon, sur ça, on va aller au texto. J'ai déjà menti au travail pour aller voir Céline Dion.
Ça, ça vaut la peine quand même, la grande.
Ouais. Moi, c'est à l'école pour m'éviter une suspension d'une semaine. Finalement, j'en ai eu une de deux jours.
Oh, parce qu'elle a menti.
Ouais,
moi aussi, à l'école, j'ai déjà menti. Il y avait une gang de parfums qui voulaient me sacrer une petite volée parce que j'étais un peu baveux, moi, dans la vie. T'sais.
Ah
et,
oui?
Ils ont dit, Charrette, après l'école, on t'attend, tu vas voir, tu vas en manger une solide. Je suis allé voir le prof, j'ai fait, il est mal au ventre, je sais pas pourquoi.
Oui.
Alors, je suis parti, je suis allé chez nous, mes parents n'étaient pas là, j'ai écouté des films tout l'après-midi. Come on!
Il faut sauver sa vie.
Alors, on entend le rire du bœuf, le bœuf est là.
Il est arrivé. Le site Reddit a accueilli les pires mensonges que les internautes ont racontés au travail. En voici quelques-uns. Quand j'étais ado, j'ai fait entrer un ami à ma job parce que ça venait avec un bonus de 250 $ s'il restait plus de 3 mois. J'avais dit à mon ami que le bonus était de 150 $, qu'on le partageait. J'ai donc gardé 100 $ sans lui dire, mais sans penser à la possibilité que quelques mois plus tard, il pourrait référer un ami et avoir 250 $. J'ai eu la pomme à le chier.
Exact.
Autre histoire. Mon chum avait oublié de prendre congé pour un festival, mais on avait des billets. Fait qu'il a dit à ses patrons qu'il devait avoir une opération au laser pour ses yeux pour pouvoir prendre le week-end off. Sauf qu'il n'avait pas pensé au fait qu'au retour du bureau, ben, il ne pourrait plus jamais utiliser ses lunettes au travail. J'espère qu'il n'était pas chirurgien. J'espère. Et notre merveilleux collaborateur paranormal, Marcel Lebeuf.
Salut, mon beau Marcel.
Je pensais jamais me retrouver dans une chronique de paranormal.
Ben, écoute, ça va de soi. Ça fait combien d'années qu'on te connaît? 25 ans, puis tu nous as toujours raconté des histoires comme ça. À chaque fois, on est ébahis, puis on fait voyons donc, ça n'a pas de sens. Puis t'en as toujours des nouvelles. C'est ça qui est hallucinant.
Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, j'ai une curiosité par rapport à ça. Alors, je redis à chaque fois, je sais pas si c'est vrai. Moi, ça me fait du bien de penser que ça puisse être vrai. J'ose espérer que quelque chose, quand on part de sa terre, j'ose espérer ça. De raconter ces histoires-là, si ça fait du bien à quelqu'un qui nous écoute, hey, c'est bingo, notre job d'être humain est fait.
Exactement, okay? C'est sûr.
Alors, ce que je veux vous raconter cette semaine, ça concerne un grand chum que j'ai eu dans la vie, qui était André Mélenchon. Mm. Pour vous le situer, André Mélenchon, c'est lui qui a fait le film La guerre des Tucs. Et André, on s'est connus en 1980. Le hasard a fait qu'il est devenu très rapidement mon coach à la LNI. Mmh. Moi, j'ai joué à la Ligue nationale d'improvisation. C'est un petit peu ce qui m'a mis au monde comme comédien. J'ai joué à ça pendant 18 ans de temps. Moi, j'en ai mangé d'impro. Mélenchon était mon coach. Marcel Sabourin aussi a été mon coach. Mais André Mélenchon l'a été pendant une couple d'années. Dans les années 80, on a resté ensemble, Mélenchon puis moi. On a fait un film qui s'appelle Rafale.
Ah, excellent film.
Avec Denis Bouchard. Et Denis et André ont co-écrit tout ça. J'ai joué dans ça. Écoute, c'est En 95, on s'est perdu de vue. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis à sortir avec André Lachapelle. Et André, c'était pas ma gang. Fait que donc, c'est normal. Puis la vie, ben vous oui, savez, dans le métier, quand on travaille pas ensemble, ben souvent, on se perd de vue. Mais quand on se retrouve, c'est comme si on s'était vu la veille.
Exact. Vrai?
Alors, à partir de 95, on s'est pas revu, André puis moi. Et il y a à peu près 8 ans, de ça, 8-9 ans, on m'appelle une journée, on me dit, Monsieur Leboeuf, accepteriez-vous de faire partie de l'hommage à André Mélenchon? On sait qu'il a la leucémie. Il a 74 ans. On ne sait pas s'il va être capable de passer à travers ça. Et tout, puis, hey, moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. J'ai dit, oui, je vais faire partie de l'hommage. Dimanche soir, au Monument National, c'est à mon tour, j'ai 4 phrases à dire, j'ai le mâton, comprends-tu, j'ai envie de broyer, je le vois, il est assis en avant, il y a un spot sur lui, il est tellement content de me voir. À la fin de l'hommage, il monte sur scène pour faire ses remerciements, et on l'assoit sur un petit tabouret. À la fin de ses remerciements, on a des balles de styrofoam dans les mains pour faire comme la guerre des tucs. On s'en va à la pause commerciale, fait qu'on se lance ça, tout le monde, comprends-tu, personne ne va parler à Mélenchon. Je m'approche de lui, je le prends par les épaules, puis je dis dans les oreilles, Mélenchon, je t'aime. Et là, il me regarde avec un gros sourire. Puis je vous le dis, là, si vous avez des enfants, bouchez les oreilles. Là. Mais soyez pas insultés de ça. Là. Il me dit avec tellement d'amour, « Leboeuf, mon tabarnak! » Parce qu'il faut que vous sachiez qu'à chaque fois que je faisais une bonne impro, quand je revenais sur le banc, souvent il me disait, « Leboeuf, mon tabarnak! » Quand je faisais une bonne scène sur le film Rafale, j'entendais couper, puis j'entendais au loin, « Leboeuf, mon tabarnak! Okay? » Donc, ça reste comme ça. Après cette émission-là, un mois plus tard, je l'interview à la radio. Moi, je fais des émissions à la radio, tout ça. Puis j'avais à Radio VM, pour pas le nommer, j'avais une série qui s'appelait Passion Marcel. Hein? Et j'interview Mélenchon, un mois plus tard. Et là, on parle de la vie puis de la mort. Il me dit, moi, Marcel, il dit, je pense que quand on meurt, il n'y a plus rien. Parce que moi, je suis athée, tout ça. Puis il dit, d'après moi, quand les fils se coupent, c'est fini.
C'est fini.
Moi, je pense le contraire.
Ouais.
Mais j'ai dit, de toute façon, André, ni toi ni moi avons raison. Parce
on
que.
On ne sait pas.
Mais qu'on meurt, s'il n'y a rien, on ne le saura pas, il n'y a rien. Puis c'est à quoi on va tout y aller. Il meurt. J'attends une semaine. J'appelle Mme Lise, OK? Mon amie à Sherbrooke. Je dis, Lise, mon chum Mélenchon, ça fait une semaine qu'il est mort. Elle, je le sais, il est devant moi. Hein? C'est vite de même. Elle dit, oui. Elle dit, attends, Marcel, je vais y parler. On est au téléphone. Elle dit, Monsieur Mélenchon, oh, elle dit, excusez. Elle me dit, moi, j'ai fait faire un saut. Je dis, attends une minute, toi. On est l'autre bord, puis on peut faire des sauts. En tout cas, bon, Fait que là, elle dit, comment ça se passe pour vous? Là, je vois qu'elle écoute. Ah bon, elle dit, vous êtes euphorique parce que vous flottez, puis vous êtes plus dans votre corps. Mais pourquoi vous êtes euphorique? Parce que vous avez souffert beaucoup avant de mourir, puis maintenant que vous êtes plus dans votre corps, là, vous êtes bien. Bon, j'ai dit, Lise, t'es morte. Est-ce qu'il sait que vous êtes avec moi au téléphone? Elle dit, je savais quelqu'un que vous aimez au téléphone. Oui, il sait que c'est toi. Je dis, peux-tu poser une question? Ah, il fait dire oui. Demandez-y donc, comment est-ce qu'il trouve ça qu'il y ait de quoi de l'autre bord?
Ouais.
Je pensais qu'il n'y avait rien. Elle dit, avez entendu la question, monsieur Mélenchon? Elle dit, quoi votre réponse? Très bien, je vais le dire. Il fait dire, Leboeuf, mon tabarnak.
Écoute.
Wow. Et là, écoute, la madame, elle sac pas, là.
Ben non. Okay?
Lise,
non,
elle a rendu
elle, elle a jamais entendu.
Mais je n'avais jamais compté ça quand elle me l'a dit. Tu comprends-tu? Je ne pouvais pas le savoir ça, moi. Tu sais?
Ah, ça.
Et là, j'ai pris un temps, puis j'ai dit, elle s'appelle Lise Thibodeau. Je la nomme, là. Je dis, Mme Thibodeau, vous êtes en train de parler avec André Mélenchon.
Oh. Wow.
Et moi, là, ça me fait du bien de penser ça.
Ah, c'est hallucinant.
Avoir des nouvelles de mon monde de l'autre bord.
C'est tellement touchant.
Et là, je vous le dis, là, je viens de la nommer, là.
Oui.
Et j'ai une autre dame aussi qui était là-dessus, qui s'appelle Lise Lebel. Les deux, les coordonnées
c'est
vont
les
être
Lise.
Sur le site, OK?
Les deux Lises.
Les deux Lises. Lise Lebel, Lise Thibodeau. Lise Lebel, Latuc, Lise Thibodeau, Sherbrooke. J'en ai d'autres, madame, mais pour l'instant, j'ai la permission de ces dames-là, OK?
De donner leurs
ouais,
coordonnées.
Ouais.
Là.
Mais là, écoutez bien, là, il y en a qui, depuis que je fais la chronique, ont trouvé leurs coordonnées, puis ils appellent, ils sont débordés. Fait que, soyez patients et patientes.
Oui.
Et premièrement, s'il vous plaît, appelez-la pas pour faire un test. Ouais, c'est vrai qu'elle est bonne.
Non,
faites pas ça.
Non, c'est
faites pas ça parce que c'est
faire.
Très dur, apparemment. OK? C'est très, très difficile. C'est très dur. Fait qu'on va pas jouer avec leur santé. Soyez patientes et patients. À un moment donné, ça, quand ça va être le temps, ça, vous allez pouvoir leur parler, là. Parce que, écoute, Mme Thibodeau à Sherbrooke, là, elle, je pense qu'elle est pas avant le 25 novembre.
Et moi, j'ai fini ça en beau temps en disant Leboeuf, mon tabarnak!
Merci, on s'en voit la semaine prochaine.
Et les Fantastiques fait relâche jusqu'au 21 août. Entre-temps, Jessica Barker et Michel Charrette sont vos copilotes pour l'été.
Rouge.
Ce matin, j'étais parent bénévole à l'école de mes enfants. Il y avait une activité comment je pourrais la qualifier, surprenante qui était organisée et qui me créait quand même un peu d'insécurité. Nous quittions l'école, 350 enfants en trottinette pour traverser la ville et se rendre jusqu'à un parc qui est quand même à beaucoup de rues. Et donc, j'ai dit tout de suite que je serais parabénévole pour jouer à la police. Ma grande a dit, oh là, tu vas être bête avec tout le monde, là, tu vas les rusher. Mais je suis non, non, je vais vraiment mettre mon plus beau sourire. Et quand je suis arrivée, malgré mon inquiétude du matin, me disant, mon Dieu, comment on va traverser des grosses rues, Saint-Denis, Saint-Joseph. Écoute, oui, c'est la grande aventure.
Mais là, c'est ça, c'est pas 10 élèves, c'est 350.
Puis de maternelle,
à sixième année.
Écoute, j'étais vraiment stressée, mais finalement, je suis arrivée, puis j'étais tellement fière de voir comment ils étaient bien organisés. Ah, c'est la police qui était là.
Ben oui.
Les rues étaient bloquées, il y avait des cadets. C'était écœurant, mes enfants capotaient. À qui la rue? À nous la rue!
Oh, bébé.
C'était magique. Et donc, on arrive au parc Laurier, et c'était quand même une bonne ride, là, tu sais. C'était vraiment une bonne demi-heure là, de trottinette. Et on tourne le coin. Et c'est ça qui est drôle. Mes deux univers se sont rencontrés. Il y avait un tournage qui était au Parc Laurier. La terreur dans l'équipe de production. Deux acteurs sur un banc de parc qui susurraient une belle scène.
350 enfants
avec la musique dans le tapis. Et rapidement, qu'est-ce qui est arrivé? J'étais au milieu de cette situation absurde. La productrice, ça fait 3 mois, j'ai mes permis. Il faut que vous quittiez. Là, j'ai dit, mais on peut pas partir. C'est notre projet de la journée. Oui, mais moi, je veux tourner. Fait que là, on a négocié. La grosse négo. On va se tasser d'un bar. Non, je veux pas que vous ayez dans les modules. J'ai dit, c'est ça le projet, les modules.
Oh, écoute, quel mauvais timing.
L'équipe était terrorisée.
C'est sûr.
Et là, on s'est tassé pour le moment collation. Mais là, j'ai vu à un moment donné l'équipe qui rappait, puis ils sont en allés à l'autre bout du parc. Il y avait pas le choix. Non, on faisait tellement de bruit.
C'est sûr.
Puis tu sais, je comprends qu'ils nous demandaient de partir, mais en même temps, j'avais envie de leur dire, hey, nous autres,
c'est deux activités.
Vous autres ici, ça fait 3 mois que vous préparez votre activité.
On a la police avec nous, on a barré les rues.
Exactement.
Là. Écoute, c'était incroyable comme moment, mais quelle belle aventure.
Hey, c'est formidable.
En ce mardi matin sur le plateau Mont-Royal.
Ça a bien fini, les enfants étaient heureux, ils ont continué leur tournage. Merci beaucoup, bonne fin de journée à tout le monde.
Exactement, tout est bien qui finit bien.
Écoute, c'est sûr que les relations entre les enseignants et les parents, c'est extrêmement important, mais c'est pas toujours facile. Le site du New York Magazine a demandé à des enseignants de révéler les comportements de parents qui compliquent leur travail. Alors, il y en a une couple. Parler en mal des enseignants sur les réseaux sociaux.
Ben non.
S'il vous plaît, faites pas ça. C'est sûr que le professeur va finir par lire ce que t'as écrit sur Facebook ou Twitter ou TikTok ou je sais pas quoi.
TikTok est toujours les regardés.
Parlant de réseaux sociaux, ne demandez pas aux profs de régler les chicanes de vos enfants sur les réseaux sociaux non plus. Ils ont déjà assez avec ce qui se passe dans leur classe. Ils sont pas obligés de commencer à essayer de régler les conflits des autres sur des plateformes. Donnez de la nourriture du restaurant à chaque repas.
Oh.
Là, faut penser que si un enfant a toujours du PF pour dîner, ça va influencer les autres enfants qui vont vouloir en avoir aussi. Pas une bien bonne idée. Demandez aux profs d'organiser des événements. Voyons, toi, ils vont déjà souligner l'anniversaire des élèves en classe. Ils peuvent pas commencer à organiser des journées spéciales pour chaque enfant. Ça finira plus.
Impossible.
Ils ont déjà 30 enfants à s'occuper d'eux et être bons. À s'occuper d'eux, quel mauvais français, mais bon, je m'excuse.
On parle des professeurs, c'est parfait.
On parle du français. Amener son enfant... Ça, c'est la pire.
Amener
son enfant malade à l'école.
Non.
S'il vous plaît. Ça arrive trop souvent que les parents vont dire à l'enfant, va à l'école, puis si ça file pas bien, je vais venir te chercher. La vérité, c'est que 9 fois sur 10, c'est sûr que l'enfant, il va se faire retourner chez lui, puis ça va être une torture de le gérer à l'école. Fait que s'il vous plaît, les parents, soyez conscients de pas trop en demander aux profs.
La boulette, la boulette.
Dans Copilote pour l'été, la boulette des sujets.
Oh, 17h19, la boulette des sujets.
C'est formidable. Ce segment m'excite au plus haut point. On a reçu un beau texto de Mélanie de Laval qui dit « Bonsoir à vous deux, merci pour ces magnifiques fous rires. Je riais toute seule pendant ma marche d'un beau 2 km. »
Ah, merveilleux.
Écoute, Mélanie, j'espère qu'on va te faire rire jusqu'à 6h encore.
Voici le bol. Tu piges, Cynthia.
C'est moi qui commence.
Ouais, t'as pas le choix.
L'invité pige et t'as pas le choix de répondre.
Parfait.
J'adore.
Alors, j'ai pigé ce papier-là qui dit... La chose que tes parents ont fait que tu ne referais jamais à tes enfants.
Ah.
Ça, c'est chien!
Wow! OK. Je les aime.
Alors, je t'écoute.
Rapport. Je les aime, ça n'a pas rapport, mais...
Écoute. Il y avait des grosses chicanes au téléphone. Mettons qu'il y a une famille divorcée. Puis là, ben c'est ça, j'ai passé, c'est ça, une maladie un petit peu de dépression. Fait que j'ai passé plusieurs heures seule dans une maison en attendant qu'un des parents se lève, mais... Dépression oblige, qui maintenant je comprends, mais c'est clair que ça crée...
Ça crée des choses,
mais tu feras pas ça à tes enfants.
Nomme un rôle que t'as pas eu, que t'aurais rêvé d'avoir. Ben là, je commence où? Si vous saviez toutes les auditions que je passe, chers amis. Ben non, mais c'est vrai.
On allait dire on salue une comédienne, mais je le ferai pas.
On dira pas. Ben non, je dis rien, là. Imaginez.
Ben plein de rôles, c'est plein. Sûr. Moi, j'aurais aimé ça jouer.
Ah oui, c'est clair.
Mais non.
Là, elle a choqué, là. Ouais. Moi, j'ai même pas choqué.
OK, ta plus grande chicane amicale avec qui et pourquoi? Oh, ça, c'est malaisant, par exemple.
Mais voyons, c'est bien intense, la thérapie, à
la
soir.
La semaine passée, j'y ai dit, mais ça, un peu plus
crunchy. Mais là, on peut-tu être plus léger?
J'aurais dû fermer ma gueule.
Ben
ouais. Ta plus grande chicane amicale avec qui et pourquoi? Ben, j'ai eu une chicane avec mon grand chum de cégep. Mon ami Pierre, et pour une raison encore aujourd'hui que j'ignore, on a arrêté de se parler du jour au lendemain, et j'ai revu Pierre il y a à peu près un mois et demi, il est venu il habite à Toronto, il est venu me voir jouer Le Vrai Monde en tournée, puis on a comme renoué un peu, mais ça faisait genre 20 ans que je l'avais pas vu, tu sais. Fait que
ça
a été ça, mais c'est une divergence d'opinion à l'époque par rapport à un sujet, je sais plus quel là, mais c'était ça.
En général, ça s'appelle une fille.
Ah. Non, mais non, ben non, lui, il pognait comme un gant de baseball. Moi, 5 pieds, 300 livres, je pognais pas pantoute.
Mais il n'y a pas. En tout cas, c'est ça.
Il y a Yannick, notre productrice, qui a fait. Oh! Ben, peut-être qu'à l'époque, si on s'était connus, t'aurais peut-être eu pitié de moi.
Vas-y. OK. La personne avec qui t'as frenché pendant une scène et qui frenchait le plus mal.
Ça, c'est hot!
Je capote!
Wow!
Moi, je pourrais dire qu'il frenchait le mieux, par exemple. Je m'en souviens comme si c'était hier.
Ben là, le plus mal, il y a personne qui...
Fais juste dire ses initiales. Juste ses initiales. V-G-O.
Je n'ai même pas prêché.
Mais non, je sais bien, je dis n'importe quoi.
Bon, alors, si tu pouvais revivre un moment de ta vie, ce serait lequel? Hey, ce serait lequel? Il y en a tellement d'émotions.
Notre cours de plongée?
J'avais pas ça en tête. Spontanément, la première image que j'ai eue, c'est mon mariage.
Ah, c'est ça.
C'est drôle, hein? C'est tellement j'ai pensé. Une belle journée. Et ben c'est ça.
Il aime tellement ton Guillaume.
Eh oui. Hey, c'est parce qu'il me supporte.
Surtout de ce temps-là, les pilules font pas effet.
Les hormones!
La pire chose que t'as dit à quelqu'un, oh mon Dieu, je salue mon ami Manon. Un mois et demi après qu'elle ait accouché, je lui ai dit « Hey, c'est le fun, c'est pour quand? »
Oh non!
Ça faisait un mois et demi qu'elle avait accouché. Je m'en veux encore aujourd'hui d'y avoir dit ça.
C'est pas si pire.
Ben, calique.
Oui, c'est si pire. C'est les ça. Gars, on prend des notes. Tout le monde veut savoir c'est qui french bien, Michel.
Oui, il y a Isabelle qui nous a demandé « Michel, dis-le qui french le mieux dans le métier. » Écoutez, je vais me lancer. Probablement que ça va faire de la peine au monde, mais... Moi, la personne que j'ai frenchée, qui frenchait le mieux dans le métier, Marcel Leboeuf.
On veut connaître la fois où vous avez fait pleurer votre frère ou votre sœur pour une niaiserie.
Ah,
textez-nous au 6-12-13. Michel, tu l'as
fait? Moi, j'ai
une
anecdote succulente. Écoute, j'ai peut-être 14 ans. Mon frère a... tu de musique? J'ose-tu? Qu'est-ce qui arrive?
J'ose.
J'ai peut-être 14 ans, mon frère en a 18. Lui, ça fait des années qu'il rêve d'avoir une Toyota Celica. Il capote ce modèle de char-là, un peu sport. Mon frère est étudiant en médecine, puis mon père décide d'y acheter sa voiture. Écoute, elle sort du garage, elle est flambant neuve. Et toutes les options sont dedans. Tu sais, vraiment la totale. Wow. Il arrive chez nous, puis là, il fait, regarde mon nouveau char. Le char n'a même pas 20 minutes de vie. Il dit, papa, il a fait installer un système d'alarme, tout. Il dit, ça a l'air que tu fais juste frôler le char, puis l'alarme part. Je dis, on va l'essayer. Et je donne un coup dans la porte et je fais une poque dans sa porte.
Mais une méchante poque!
Une solide poque. Et mon frère se met à pleurer, mais de rage. Il veut me tuer avec ses yeux. Il est embarqué dans son char. Il est parti à toute vitesse. Écoute, il ne m'a pas adressé la parole pendant au moins un mois.
Mais non!
Dans mon cœur, je me dis, mais oui, mais c'est juste une petite poque. Mais lui, c'était le rêve, son rêve ultime d'avoir ce char-là, puis tout. Puis après ça, ben genre, une semaine après, mon père, il dit, hey, tu me passes-tu ta voiture faire une commission? Puis mon père, il a une bourse dans la vie, il la lance sur le banc d'à côté, il déchire le banc, ça s'accroche.
Mais voyons donc!
Non, c'était un char
de l'enfer.
Le char était maudit.
C'est
bref. Fait que il a fait une petite crise de pleurs parce que j'avais fait une petite poque dans son char. Mais toi, Jess Benji, je pense qu'il a mangé une coupe de volée.
J'allais tellement écœuré, là. Vous pouvez pas imaginer. J'avais comme un répertoire de chansons qui le rendaient vraiment comme à bout de la vie.
Oh non.
Entre autres, autres, il y avait Woody Woodpecker là, que je pouvais faire en boucle. Là, il devenait hystérique. Là, il me frappait.
Mais tu faisais ça où? À la maison, dans le char?
Peu importe où.
Ah, il venait, je comprends.
Puis je chantais aussi la chanson du Club Med, « Oh les mains, sans arrêt », mais en boucle. J'étais tellement gossante. Puis je te jure, là, des fois, là, à un moment donné, il était tellement plus capable de m'entendre. Je m'en vais rappeler toute ma vie. Il a regardé maman, je suis plus capable. Il a pogné son verre de lait, il me l'a garroché en pleine face.
Fasse tasser, toi. Aujourd'hui, quand tu le vois, tu y fais encore.
J'ai les cœurs purs, on s'aime, on a fait de la thérapie, tout est réglé.
Écoutez, si vous avez déjà fait pleurer votre frère ou votre sœur pour une niaiserie, écrivez-nous au 6-12-13. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé dimanche pendant un match des Red Sox de Boston au Fenway Park. Alors, pendant le match, le frappeur a cogné une fausse balle dans les estrades. Alors, il y a un amateur, évidemment un adulte, qui a récupéré l'objet pour le remettre à un enfant, le petit Charlie Mulligan. Mm. Alors, sauf que le petit Charlie, lui, a décidé de relancer la balle en direction du terrain. Mais il n'a pas gardé
ce
souvenir précieux-là. Alors, c'est après qu'il a réalisé sa gaffe parce que son frère Jack était tellement fâché et découragé qu'il s'est mis à pleurer, le petit Charlie. Puis il pleurait parce que son frère était en beau maudit après lui. Évidemment, les caméras et les commentateurs de la TV ont tout capté ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez?
Ils ont redonné une balle.
Ils ont redonné non seulement une balle, mais deux balles autographiées avec des chandails autographiés aux deux petits garçons. C'est quand même beau. T'as fait pleurer ton frère, mais tu finis avec une balle ben gentille. C'est quand même pas si pire, ça, tu sais. Mais
j'imagine les parents qui gèrent tout ce drame-là.
Plus, ce drame-là pour ça, tu sais.
Puis qu'il y a là qui se disent, oh mon.
Mais moi, ce que j'imagine, c'est des parents qui ont vu ça, qui ont fait, hey, un prochain match, on va s'organiser pour que les enfants fassent ça, qu'ils se fassent semblant de se pogner. On va peut-être avoir un chandail autographié. Tu sais comment ça peut aller loin des fois des parents pour avoir quelque chose?
Les auditeurs sont en feu, on va aller lire Erika.
Oui, Erika qui dit « J'ai roulé par accident sur la jambe à mon frère en quatre roues. »
Mon Dieu.
Mais là, c'est pas une niaiserie, ça me semble, Erika. À moins que ça soit un petit quatre roues de batterie. Un jouet. Un genre de jouet quand il était petit. Là, à ce moment-là, ça devient drôle.
On aimerait plus de détails, Erika. On est inquiet. J'ai fait pleurer ma petite sœur parce que je lui avais fait croire qu'il y avait des esprits maléfiques dans sa chambre après avoir écouté un film d'horreur, Nancy.
Ça aussi, ça me fait penser à moi. Mon frère a tout écouté. Tu sais, le masque là avec le couteau et Jamie Lee Curtis.
Scream.
Non.
Halloween.
Halloween. Écoute, mon frère écoutait ça en boucle. Puis quand je descendais dans la cave, il me faisait peur.
Ah.
Écoute, j'ai jamais été capable d'écouter un film d'horreur. Je déteste ça.
Oh
si j'écoute un film d'horreur parce que j'ai pas le choix, faut qu'il soit 3 heures l'après-midi, qu'il fasse soleil, de la grande lumière parce que j'ai peur, j'étais un chieux.
Hey, je suis pareil.
Je suis pas capable d'écouter des films d'horreur. Je suis un gros chieux.
Ah non, je suis incapable moi aussi. C'est comme un traumatisme d'enfance. Là.
Ça allait. J'ai écouté Poltergeist. La fille qui vire à l'envers, qui vomit, là.
C'est l'exorciste.
Merci, j'avais 8 ans. Puis, à un moment, j'ai eu peur de monter au deuxième étage. Je suis partie à courir, j'ai allumé toutes les lumières. Puis après ça, c'était correct, c'est
arrivé. Moi, t'es fait fort.
C'est ça. Alors, il y a quelqu'un qui nous écrit « J'étais au camp d'été, je suis allé me cacher en dessous d'un lit de camp. » Après 20 minutes, les animateurs ont fait une alerte générale parce qu'ils pensaient m'avoir perdu.
Ah non.
Je suis finalement sorti quand j'ai entendu mon frère qui braillait. Je me sens encore mal 20 ans plus tard. Je te confirme, moi aussi, je me serais senti mal.
Et le sujet le plus populaire est...
Les mensonges au travail. Bande de menteurs. Mélanie de Laval nous a écrit « J'ai déjà manqué une journée pour aller écouter le nouvel album de Marie-Mé chez elle. C'était un concours et j'avais gagné. »
Mon Dieu, ça devait être trippant quand même.
Ils étaient dans sa maison. Il y avait
perso?
Oui, puis elle les recevait, puis il y avait eu des caméras, puis j'avais tout regardé.
Donc, t'étais-tu là?
Non, mais je l'ai regardé chez nous.
OK, c'est bon. Il y a quelqu'un qui écrit « J'adore ça, ce serait mon genre, ça. J'ai calé malade hier pour aller me faire tatouer. »
Oh ben là!
Je suis tellement dans ton équipe. Moi aussi, j'aurais aimé ça faire ça des fois. À une de mes anciennes jobs, j'ai souvent dit que j'avais des problèmes avec mon auto et que mon chien avait vomi partout. Mais c'était provais, ça me tentait pas d'aller travailler.
Oh my God, des chiens, par exemple, ça arrive, ça vomit.
Oui, c'est vrai.
Merci de nous avoir écrit sur vos mensonges. Maintenant, on sait que vous êtes tous des menteurs. On va aller dire bonjour à Gab. Salut, Gab.
Salut, gang. Dans les prochaines minutes, Bibi Rexha, David Guetta, I'm Good. On va voir ça, entre autres, dans la compile. Fallait que je prenne quelques secondes pour vous parler de Bibi Rexha qui était en show dans les derniers jours. Puis, tu sais, quand on disait que les téléphones cellulaires s'étaient rendus problématiques, bien, c'est plus parce que les gens décident de filmer le spectacle, c'est parce que le monde prenne le téléphone puis ils pitchent par la tête de l'artiste. Elle s'est retrouvée à l'hôpital à cause de ça, imaginez-vous! Fait que j'ose croire que lorsqu'elle va être au Québec, à l'International des Montgolfières à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 12 août prochain, on devrait être un peu plus gentil que ça et un peu plus accueillant que ça l'a été dans les derniers jours, OK? On se retrouve dans les prochaines minutes pour la compile!
Merci, merci Michel, merci Cynthia. On se retrouve demain. Merci à l'équipe, Yannick Richard au contenu, Jean-François Hébert, notre scripteur, acheteur de gogos sur Marketplace, Dominique Marcourt, réseaux sociaux, filmeuse de gogos sur Marketplace, et Jean-Philippe Dupuis, notre metteur en onde. Gab Barois s'en vient avec la compile partout au Québec. À demain, les copilotes!
À demain, merci tout le monde, bye-bye!
Véronique et les Fantastiques est de retour le 21 août prochain.
Entre-temps, Jessica Barker et Michel Charrette sont vos copilotes pour l'été. Rouge.